oui, octobre qui est arrivé. Bonjour Anne-Marie Aubin.
Bonjour, quelle belle chanson.
C'est vrai, hein, très belle chanson, ça nous met dans l'ambiance d'automne. Est-ce que les couleurs commencent à apparaître dans votre coin de pays, qui est la Gaspésie?
Oui, je dirais même que ça commence plus tôt dans le nord par rapport au sud, là.
Ouais.
Oui, je pense.
Alors, il n'y a pas de feuilles rouges pour l'instant?
Oui, on a du rouge, oui.
OK. Ouais. je pensais que vous me disiez le contraire.
Je pense que les saisons arrivent plus tôt. Moi, je me pense au nord. En tout cas, je ne sais pas si on a le même boussole, mais disons qu'on est dans l'est du pays, mais on est quand même en hauteur puis en montagne.
Je comprends, oui. Ouais. Alors, ça doit être très, très beau. C'est toujours beau, de toute façon, en Gaspésie.
Toutes les saisons. L'automne, c'est particulier.
Oui. Alors, ça vous a donné le goût, peut-être, cette ambiance automnale pour lire de la poésie. Il suffit d'une abeille, carnet d'observation d'un jardin urbain.
Oui, en fait, la semaine dernière, on était aux Îles-de-la-Madeleine dans le roman de Fanny de Meul, Temps de fortune. Là, on est avec une poète des Îles-de-la-Madeleine qui a publié beaucoup de poésie. C'est Geneviève Boudreau. Et je l'ai connue dans le festival Vivace qui a lieu ici annuellement à Maria, où on reçoit des poètes et enfin des artistes. Et puis donc, j'ai découvert ce livre-là, Il suffit d'une abeille. C'est un livre qui est à la fois scientifique et poétique, mais je mets tout de suite les gens en garde. Ce n'est pas un livre aride, c'est très
vivant, coloré,
oui, puis c'est livré piquant. De manière intime, je dirais, très, très personnelle. Donc, elle a une formation en littérature et elle enseigne au cégep. Puis elle a publié des nouvelles chez Boréal, de la poésie à l'Hexagone et au Nord-Ouest. Elle a plusieurs publications, elle a participé à des collectifs. Et elle nous raconte qu'elle a créé ce livre-là pendant la pandémie. La pandémie, ça a eu du bon quand même pour certaines personnes.
Oui, en effet.
Il est question de tout ce qu'il y a dans sa cour arrière, finalement, où elle a décidé d'installer un jardin en banlieue. Elle vit à Sainte-Foy, là. Elle n'est pas dans la campagne. C'est pas du tout là ce qu'on peut imaginer avec les champs, les fleurs et tout ça. Pas du tout. Elle est en banlieue. Elle a dû aménager, avec sans doute beaucoup de difficultés, un terrain de banlieue qui n'était pas du tout fertile pour en faire un jardin. Puis, elle photographie les insectes et les plantes qu'elle voit, puis elle dessine. Cette fille-là, elle a un talent en illustration. Moi, je lui ai dit, tu es illustratrice. Elle dit non, mais tous les dessins intérieurs sont d'elle. Alors, c'est quand même beau. Et elle fabrique aussi des gravures. Donc, elle a beaucoup de talent. Bref. Puis, elle a décidé, pendant tout cet été-là, en 2020, quand on était tous confinés dans nos cours, d'en profiter pour se pencher sur ce qui se passe autour d'elle. Alors, elle dit, les grands paysages, les exploits architecturaux et artistiques nous donnent le vertige. Mais ils ne parlent pas ma langue, celle des êtres humiliés, relégués au sol, à l'invisible. La beauté la plus grande est la plus oublieuse d'elle-même. Elle nous parle des feuilles sèches, de la poussière, de l'humus. C'est cette beauté-là qui parle de moi, du mot humus dérive humilité aussi bien qu'humanité. Alors, c'est ça l'intimité. On a l'impression d'être dans son journal personnel, puis on lit des observations, mais écrites par une poète. Donc, quand je dis que c'est pas du tout aride à lire, c'est qu'il y a des passages où, effectivement, elle nous donne des informations sur tous les insectes qu'elle découvre et puis qu'elle décrit, puis qu'elle dessine, puis les plantes et tout ça. Mais il y a aussi des moments où c'est plus du type poésie. Donc, entre les chapitres, il y a des moments où on est dans la prose poétique.
C'est original, hein?
Oui, c'est assez original. C'est qu'elle a commencé par faire, finalement, des textes pour elle-même, puis finalement, au bout du compte, elle s'est dit que ça pouvait servir à d'autres. Et effectivement, je crois que quand on lit ça, on regarde plus les insectes de la même façon. Puis moi, à mesure qu'elle nommait les insectes en français, latin, puis qu'elle les décrivait, j'allais voir sur Internet. Puis bon, là, je me suis mis à observer les abeilles qu'il y avait dans mon jardin à moi, puis les insectes, les libellules et tout ça. Puis je ne suis pas du tout une entomologiste, mais je m'y suis attardée
cette
lecture-là, parce que je me suis rendu compte que, comme elle dit, je ne possédais pas les mots pour nommer ce territoire et je ne pouvais pas connaître intimement ce que je ne savais pas nommer. Quelle existence a pour nous ce qui demeure sans nom? Recluse dans le jardin en raison de la pandémie, j'ai changé mon regard sur ma réalité immédiate. Une abeille suffit à ouvrir chaque jour des perspectives inconnues. Alors voilà, elle s'est mise à écrire dans ses carnets et à dessiner. Donc, le livre est divisé en trois grandes parties qui sont les saisons. Finalement, le premier, c'est mai-juin, juillet-août, septembre-octobre. Donc, on commence avec les semences, on finit avec les récoltes. Et puis là, ben, elle découvre en mai-juin, elle nous dit que finalement, tout ce qu'elle appelait des bibites quand elle était jeune, ben, finalement,
on
c'est
dénonce.
Un dénom scientifique.
Ah oui.
Puis avec une photo, elle prenait des photos et là, elle peut, avec des applications, trouver c'est quoi le nom de l'insecte en question. Et puis, elle dit qu'à travers tout ce travail-là, finalement, elle se raconte elle-même. Quand je dis que c'est intime, c'est un peu ça. Elle dit « Mes abeilles sont intérieures. Ce qui s'engendre ici, c'est moi, ma présence au monde. Je ne suis pas dupe. Ces formes et ces lettres tremblantes en creux ne parlent que de moi. » Donc, c'est vraiment très beau. Moi, j'ai trouvé ça très touchant. Puis, elle cite beaucoup d'auteurs, à la fois des auteurs scientifiques un peu, mais surtout des écrivains. Par exemple, Emily Dickinson est sans doute celle qui est la plus citée. Et elle dit « Pour faire une prairie, il faut du trèfle et une abeille. » Ça, c'est Emily Dickinson qui dit ça. Mmh. Donc, elle est importante dans sa démarche à l'autrice Geneviève Boudreau.
Ça me fait
elle
penser aussi un peu au style de Dominique Fortier, le très, très délicat, attentif, oui. Observateur.
Bien, comme Dominique Fortier adore Emily Dickinson aussi.
Bon, oui, en plus, oui, communs. Oui.
Oui, puis moi, j'ai vu des points avec George Sand qui a écrit sur les insectes. Elle avait un fils, Maurice, qui était très près d'elle et ensemble, ils ont fait, par exemple, de l'entomologie, ils ont observé des papillons, des insectes et elle a fait des contes où elle les décrit comme ça, puis avec les noms en latin. Et donc, j'ai retrouvé quelque chose du 19e siècle, là, un peu dans cette façon d'observer la nature.
Des échos, une correspondance.
Oui, exact. Et puis, elle fait tellement partie de son jardin, de sa cour, qu'elle dit que les insectes se sont habitués à elle comme si elle en faisait partie. À un moment donné, elle dit qu'elle a des bourdons qui se glissent sous ses vêtements plus d'une fois. Puis elle dit, au fond, puis elle n'est pas du tout peur d'être piquée, là. Elle n'est pas comme nous. Là.
Ah, c'est
elle,
vraiment au sens premier, là. On n'est pas dans une réalité poétique, là.
Non, c'est vrai. Les insectes se posent sur elle, elle le nomme. Et puis, on apprend à ne pas avoir peur des insectes du tout. Puis elle dit, nous croyons toute forme de communication impossible entre les insectes et nous. Il m'arrive de me demander si nous n'avons pas tort. Parce que pourquoi les insectes vont sur elle comme ça, ne la piquent pas, c'est qu'en fait, elle fait partie du potager, du jardin, elle fait partie de la nature. Et puis, la beauté de la chose, c'est qu'elle se discipline à écrire à chaque jour, à sortir malgré tout ce qui se passe autour, pour remplir son carnet. Elle dit « J'écris pour commencer à entendre dans des mots qui sont les miens, pour commencer à voir pleinement cette terre que j'occupe trop souvent en étrangère. J'écris comme on récolte des fruits. » Alors, elle participe de son jardin, elle en fait vraiment partie, et puis je trouvais ça très intéressant comme expérience à livrer à des gens qui ont justement plein de choses qui poussent autour des plantes et puis qui finalement ils ne les connaissent pas. Et parmi ces auteurs cités, il y en a un qui m'a vraiment plu, c'est Jim Harrison qui, elle va dire, « Me cause-t-elle du tort en me tenant à l'écart des grands problèmes ?» se demande Jim Harrison à propos des fleurs qui poussent sous sa fenêtre. Bien sûr, répond le poète. Mais les grands problèmes n'ont pas besoin de moi. Effectivement, je pense que le jardin a beaucoup plus besoin de nos soins que ce qui se passe dans l'humanité devant des problèmes tellement gros qu'on est impuissant à faire quoi que ce soit. Puis c'est une forme de consolation d'aller dans son jardin, de regarder pousser ses fleurs. Et puis c'est une nourriture intellectuelle, mais aussi ça va la nourrir parce qu'elle va avoir des récoltes à la fin de la saison. Alors, c'est une passionnée, cette poète, qui va au fond des choses, qui nous résume le fruit de son expérience. C'est un livre qu'on déguste lentement, qui nous amène à la méditation, au calme. Même si elle est dans une banlieue entre deux autoroutes, là, elle arrive à trouver cette plénitude en se concentrant complètement sur ce qu'elle voit puis ce qu'elle écrit. Puis si on veut en savoir plus sur son expérience, Bien, cette semaine, la semaine verte, dimanche dernier, le 29 septembre, bien, le dernier segment de l'émission portait sur elle, ça s'intitule « L'écrivaine qui jardine pour les abeilles ». Et la Fabrique culturelle a créé une capsule qui s'appelle « Le monde poétique des abeilles ». Alors, ces abeilles vont l'amener loin. Puis les abeilles, en même temps, c'est un symbole du labeur, hein. Elle travaille tellement fort que j'ai l'impression qu'elle est comme ça. C'est une personne qui travaille beaucoup puis qui s'épanche et qui veut qui peut se donner une discipline pour apprécier tout ce qu'il y a autour d'elle.
Alors, un texte, des mots qui sont savoureux comme le miel.
Oui, exact.
Mais c'est pas mielleux.
Puis on sait combien ça prend de temps à faire du miel, combien c'est laborieux. Et aussi,
bien, on ne le sait pas tout le temps. Hein? On l'achète quelquefois à l'épicerie sans se poser de questions, mais quand on rencontre un vrai apiculteur qui fait du miel, là, on prend conscience de tout le travail de cet apiculteur-là, mais aussi des abeilles qui y travaillent, qui en font.
Oui, parce que j'en ai dans ma cour des ruches, puis je sais combien c'est long, combien c'est difficile.
Ah, vous en faites du miel?
C'est pas moi qui le fais, c'est une amie, mais j'y prête ma cour parce que moi, j'ai des fleurs, j'ai beaucoup de pollen ici. Alors, ça permet de polliniser. Puis, des abeilles, il y en a plein chez moi parce que c'est sûr qu'elles butinent à plusieurs mètres, hein, loin de la ruche. Là, elles se promènent partout. Puis, comme j'ai beaucoup de fleurs dans mon jardin, ben elles viennent. Puis, bon, j'ai appris à les apprivoiser aussi. Sauf
comme
que moi, je me suis mis à les
Boudreau.
Identifier.
Ah oui.
Parce qu'il y a plein de sortes d'abeilles, hein, puis de bourdons, puis de libellules. Alors ça, c'est tout à fait fascinant. C'est un monde minuscule des insectes qu'on ne connaît pas bien. Et ça me faisait penser aussi au livre de... comment
les fourmis?
Les fleurs, nos fleurs, écrit par Anaïs Barbeau.
Oui, Mathilde Saint-Mars.
Oui, puis qui va te
décrire... Merveilleux livre.
Qui poussent comme des mauvaises herbes, mais que là, on apprend à regarder d'une manière poétique. Alors, bref, c'est un très beau livre que je recommande à lire doucement au cours de peut-être des saisons, puis observer autour de nous, même si on vit en ville, qu'il y a des insectes et puis que justement, ils sont tous menacés. Là. Alors, c'est encore plus important d'en prendre soin puis de ne pas être effrayé par un insecte qui...
Ouais.
Aller le tuer comme ça,
gratuitement.
Puis laisser pousser sa pelouse aussi, puis la mauvaise herbe, là, c'est pas grave, là. C'est ça qui permet la pollinisation.
Oui, parce que, en tout cas, je sais que dans mon enfance, il y en avait plein d'abeilles, puis là, il y en a de moins en moins. En fin de semaine, j'observais, j'ai vu des guêpes, j'ai vu des thons, j'ai vu des abeilles, mais on a toujours un petit peu peur de se faire piquer quand on n'a pas le même talent que vous, Geneviève Boudreau. Mais c'était quand même une agréable nouvelle, là. Je disais, il y a de la vie, puis c'est plus normal. Alors, Anne-Marie, je vais rappeler le titre de ce recueil de poésie scientifique, un essai, en fait. Il suffit d'une abeille, carnet d'observation d'un jardin urbain, et c'est publié chez Le Norrois, 147 pages, que vous avez beaucoup apprécié.
Beaucoup.
Ouais. Merci, Anne-Marie, à la semaine prochaine.
Merci. Au revoir.
Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin. J'en prendrai bien soin. Qu'il soit aussi beau que toi. Si tu veux attendre avec moi que les oiseaux reviennent, si tu veux souffrir ces semaines de silence et de froid, j'ai déjà dessiné pour toi un jardin au fond de la cour, à l'image de notre amour, quand tu y crois. Cet été, je ferai un jardin, si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain, j'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin, pour qu'il soit aussi beau que toi. Nous regarderons pousser les fleurs, les légumes et les fruits, avec la foi des tout petits. Le soleil de 5 heures fera renaître nos ardeurs. Tu te souviens de nos étés? Si tu voulais encore rester jusqu'aux chaleurs, cet été je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit. C'est certain.